Vous écoutez, on lit pour vous.
Où sont les femmes dans les noms des bibliothèques? Un texte de Catherine Lalonde paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. La bibliothèque d'Ahuntsic à Montréal a changé de nom. Elle est devenue, le 19 juin 2025, la bibliothèque Hélène Charbonneau, en hommage à celle qui y a travaillé près de 20 ans et qui a été une des pionnières ici de l'animation autour du livre pour enfants. À Montréal, seulement 3 bibliothèques sur 48 portent le nom d'une femme. Dans les 10 plus grandes villes du Québec, elles sont 19%. Où sont les femmes? À Montréal, la bibliothèque Hélène Charbonneau est la première de la métropole à porter le nom d'une travailleuse des bibliothèques. En 2027, si les rénovations de la bibliothèque Saint-Charles respectent les délais, celle-ci sera rebaptisée Eva Circé-Côté en l'honneur de celle qui fut bibliothécaire mais aussi journaliste et militante. Attribuer à une bibliothèque montréalaise le nom d'Hélène Charbonneau ne relève pas simplement de la commémoration, estime Marie D. Martel dans une lettre ouverte au Devoir. C'est une manière de corriger un déséquilibre historique, de redonner une juste place à celles qui ont bâti, pensé, incarné le service public, continue la professeure à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, qui était membre du comité qui a choisi le nouveau nom de la bibliothèque Hélène Charbonneau. Au Québec, constate-t-elle, les bibliothèques qui portent le nom de femmes sont encore très rares, et l'effacement symbolique dans la toponymie culturelle est particulièrement prononcé à Montréal. Madame Martel a sorti sa calculatrice. Sur les 48 établissements du réseau montréalais, 3 seulement portent le nom d'une femme, soit 6%. Si on observe les 5 plus grandes villes du Québec, Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil et leurs 102 bibliothèques, là, 17% portent des noms de femmes, 37% des noms d'hommes et 46% des noms de lieux ou autres. Chacune de ces villes a des habitudes fort différentes pour nommer ses bibliothèques. À Montréal, on nomme surtout à partir des lieux, dans 67% des cas. À Longueuil et à Laval, toutes les bibliothèques portent des noms de personnes. Laval est celle qui s'approche le plus de l'égalité. 44% des bibliothèques y portent des noms de femmes. Si on élargit aux 10 plus grandes villes du Québec, Terrebonne est la seule ville qui n'a donné aucun nom de femme à ses bibliothèques. 3 portent des noms de lieux, l'autre se nomme André Guérard. Montréal est avant-dernière, avec ses 6% de bibliothèques au nom féminin, bien après Longueuil, qui en compte 14%. À l'inverse, Trois-Rivières a donné plus de noms de femmes à ses 5 bibliothèques. Aline Piché, maître Verrière, Orise Longueval, enseignante et infirmière, et l'enseignante Simone Elleroy, qui a aussi contribué à l'implantation de la bibliothèque municipale de Pointe-du-Lac, sont ainsi saluées auprès du poète Gatien Lapointe et de l'historien et éditeur Maurice Loranger. Bibliothécaire, métier invisible. Dans nos 5 plus grandes villes, seulement 6 bibliothèques honorent des gens du métier. Un chiffre si bas, selon Marie D. Martel, qu'il témoigne d'un effacement symbolique persistant, même au sein d'institutions qui se veulent inclusives, ouvertes, accueillantes. Des institutions, paradoxalement, où ce sont principalement des femmes qui travaillent, qui innovent, qui les font vivre au quotidien. Gatineau est la ville la plus reconnaissante envers ces gens qui ont cru à la lecture publique et accessible. Aurélien Doucet, conseiller municipal de Hull et président du comité de la bibliothèque municipale. Jean-Marie Caron, fondateur avec sa femme Pauline Poirier de la bibliothèque d'Angers. Et Lucie Faris, qui a fondé la première bibliothèque d'Elmer, sont là des noms de bibliothèques. La dernière vient tout juste d'être inaugurée. À Longueuil, on honore ainsi Muriel Anne Brown, première bibliothécaire de Greenfield Park au début des années 1960, et le directeur de bibliothèque Hubert Perron. Les bibliothèques du Québec, selon Marie D. Martel, gagnent à se présenter comme des lieux que les femmes ont contribué à façonner, à reconnaître, qu'elles les ont enrichies, transformées, portées à bout de bras, et qu'elles méritent, elles aussi, d'y inscrire leur nom. Hélène Charbonneau, 1929-2021. Embauchée à la bibliothèque d'Ahuntsic en 1953, Hélène Charbonneau y travaillera presque 20 ans. Elle crée pendant sa carrière des espaces et des programmes pour les jeunes, à une époque où ce public était très peu valorisé et mal desservi. Et elle l'a fait pour l'ensemble des bibliothèques de Montréal. Livres dans la rue, qui fonctionne depuis 1982, où des animatrices, sac au dos, s'installent dans un parc pour lire aux petits, surtout dans les quartiers vulnérables. C'est elle qui l'a pensé, par exemple. C'était « Où sont les femmes dans les noms des bibliothèques ?» un texte de Catherine Lalonde paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
Le mythe du filtrage et l'ombre de la financiarisation. Un texte de Richard Ryan, paru le 16 juillet 2025 dans La Presse. L'auteur réagit aux chroniques de Maxime Bergeron du 7 juillet 2025. Ce gratte-ciel de 63 étages aidera-t-il la crise du logement? Et de Philippe Mercure, du 1er juillet 2025, « Construit-on des logements inutiles contre la crise? » Richard Ryan est consultant en logement abordable, conseiller municipal à Montréal de 2009 à 2021. Dans un contexte de crise du logement, il est salutaire que des journalistes comme Maxime Bergeron et Philippe Mercure posent les bonnes questions. Leurs articles soulèvent un enjeu crucial. La validité de la théorie du filtrage ou ruissellement, selon laquelle construire des logements pour les plus fortunés finirait par profiter à l'ensemble de la population. Ce raisonnement, issu de la loi classique de l'offre et de la demande, est largement soutenu par des promoteurs comme Marc Varadi, projet Skyla, est relayé par plusieurs économistes, notamment à la SCHL. On nous assure que les ménages aisés, en occupant les logements neufs, libèrent des logements plus abordables pour ceux aux revenus modestes, enclenchant ainsi une chaîne de mobilité vers le bas. Mais cette mécanique tient-elle encore la route? Les crises passées ont pu se résorber grâce à une offre accrue, mais le contexte a changé. Aujourd'hui, les logements libérés par les plus riches sont, eux aussi, devenus inabordables pour une grande partie de la population. Depuis 2019, les loyers ont augmenté de 71% à Montréal, alors que les revenus n'ont pas suivi. Même les logements existants deviennent inaccessibles dès qu'ils changent de locataire. Les données récentes de la SCHL sont éclairantes. Les loyers ont augmenté de 23,5% à l'échelle canadienne pour les logements ayant changé de ménage, contre seulement 5,7% pour les logements rester occupés. À Montréal, l'écart est semblable. 18,7% contre 4,7%. Voilà un symptôme d'un marché déconnecté des besoins. Rentabilité rapide. La situation n'est plus simplement conjoncturelle. On assiste à une transformation structurelle du marché résidentiel dominé par un modèle économique fondé sur la rentabilité rapide. la financiarisation de l'habitation 3, qui désigne l'entrée massive des capitaux privés et institutionnels dans l'immobilier locatif, joue ici un rôle central. Ce modèle privilégie les projets très rentables, comme les micro-logements ou les tours de luxe, au détriment d'une offre diversifiée et réellement abordable. Avant les années 2000, les promoteurs répondaient à un éventail plus large de besoins résidentiels, y compris ceux des classes moyennes. Aujourd'hui, les rendements rapides recherchés par les fonds d'investissement concentrent les projets sur une clientèle fortunée. Résultat, des logements comme ceux du Skyla, affichés à 3 740 $ pour un 4,5, excluent 80 % des ménages. La spéculation dans le parc locatif existant, avec ou sans rénovation majeure, accentue aussi la pression. Les règles actuelles du tribunal administratif du logement sont telles qu'elles n'empêchent pas des hausses ancrées sur les prix du marché, encourageant des investisseurs à acquérir des immeubles simplement pour en maximiser le rendement. L'instabilité locative, autrefois réservée aux plus vulnérables, touche désormais les classes moyennes. La peur de devoir quitter son logement, de ne pas pouvoir se reloger à un prix raisonnable, est devenue monnaie courante. C'est ici que le mythe du filtrage 4 s'effondre. Les logements libérés ne sont plus accessibles. L'idée que toute construction est bonne devrait sérieusement être reconsidérée. Certes, plusieurs obstacles nuisent à la construction. Coût des matériaux, taux d'intérêt, lourdeurs administratives. Mais le vrai éléphant dans la pièce, c'est un secteur de l'habitation désormais gouverné par la logique financière qui s'éloigne de sa mission première, loger adéquatement la population. C'était le mythe du filtrage et l'ombre de la financiarisation. Un texte de Richard Ryan, paru le 16 juillet 2025 dans La Presse.
Une guerre à huis clos. Mot de l'éditeur adjoint. Un texte de François Cardinal, paru le 17 août 2025 dans La Presse. Mot de François Cardinal, vice-président information et éditeur adjoint à La Presse. La guerre à Gaza s'est invitée jusqu'à La Presse lundi le 11 août 2025. Un groupe de manifestants s'est précipité à l'intérieur de l'immeuble et a été stoppé dans l'entrée par la police. Épisode bref et sans conséquence, mais révélateur du défi que pose la couverture d'un conflit que mène Israël. L'incident illustre l'intensité des camps qui s'affrontent et qui accusent tous les grands médias de biais, de partialité, de complicité. Chaque mot, chaque image, chaque choix éditorial est scruté et contesté par courriel sur les réseaux sociaux, dans la rue ou carrément devant les bureaux des journalistes. Québecor a été ciblé il y a quelques semaines, Radio-Canada l'a aussi été ces derniers jours. Preuve que de présenter les nuances d'un conflit aussi complexe revient inévitablement à ne satisfaire aucun camp. Mais de quoi est faite cette couverture quotidienne? D'où vient-elle? Qui signe ces textes provenant du Moyen-Orient, surtout quand on sait que La Presse a envoyé des journalistes en Israël, mais pas à Gaza, comme certains militants nous l'ont reproché? Ils proviennent de journalistes sur le terrain, qui collaborent avec les grandes agences de presse comme l'agence France Presse, Reuters et Associated Press. Ce sont souvent des pigistes locaux, surtout à Gaza. Car voilà un fait qu'on oublie trop souvent. Israël interdit l'accès de la bande de Gaza à tout journaliste étranger, dont ceux de la presse, depuis la fameuse attaque du 7 octobre 2023. Une situation sans précédent. Les rares exceptions se font sous escorte militaire pour des visites brèves sur des trajets imposés. Résultat. La couverture dépend presque entièrement de journalistes palestiniens qui vivent au rythme des frappes, des coupures d'électricité et de la recherche d'eau et de nourriture. Les agences travaillent donc avec ces équipes locales. Sans elles, pas d'image de l'après-coup d'une frappe, pas de vues aériennes de Gaza en ruine, pas de photos de citoyens affamés. Or, la production de ces nouvelles et témoignages, déjà difficiles, l'est chaque jour un peu plus, à mesure que les conditions se dégradent et que des voix s'éteignent. Vous avez bien sûr lu sur ces journalistes d'Al Jazeera tués dans une frappe dimanche dernier. Il s'ajoute aux quelques 200 journalistes palestiniens tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes. À titre de comparaison, la guerre en Ukraine a coûté la vie à 18 journalistes. Aucun autre conflit récent n'a été aussi meurtrier pour la profession. Et pourtant, malgré des conditions inimaginables, l'information continue de sortir. Photos, vidéos et dépêches franchissent la frontière, souvent au prix d'efforts qu'on devine considérables. C'est en partie ce que nous publions dans la presse. Chaque fois qu'un journaliste local meurt, l'angle mort du grand public s'élargit forcément. C'est un fait, non pas une prise de position. Cela amène un curieux paradoxe pour les lecteurs. Ils ont accès, comme jamais, à une quantité phénoménale d'images de la guerre sur les réseaux sociaux, et pourtant, ils ont accès à bien peu d'informations vérifiées et précises. Les images circulent en effet sans contexte ni garantie d'authenticité, et l'absence de témoins étrangers indépendants fragilise la couverture, alimente la méfiance et les accusations de partialité, d'un côté comme de l'autre. Au-delà de ce conflit comme tel, la crainte pour les défenseurs de la liberté de la presse, c'est que cette situation crée un précédent, qu'un conflit puisse être mené à huis clos, que des journalistes soient ciblés sans conséquence et que l'accès soit entièrement contrôlé par les parties impliquées dans la guerre. Voir la police intervenir devant nos bureaux lundi m'a rappelé à quel point ce conflit à des milliers de kilomètres déclenche des passions jusque devant nos portes. Et que la guerre elle-même se déroule loin des regards derrière une frontière fermée. Précision sur les pétitions. Depuis des mois, associations et agences de presse réclament la réouverture de Gaza à la presse internationale. Mardi 12 août 2025, nous avons publié un appel à la solidarité envers les journalistes de la bande de Gaza. Parmi les signataires figuraient plusieurs anciens de la presse, mais aucun membre actuel de la rédaction. Ce n'est pas un désaveu, mais le respect d'une règle inscrite dans notre guide des normes et pratiques journalistiques, le devoir de réserve, qui vise à préserver la confiance du public en évitant toute apparence d'appui à une cause ou un mouvement. Les journalistes de la presse, qu'ils soient reporters ou chroniqueurs, ne peuvent signer de pétitions portant sur des enjeux d'actualité ou susceptibles d'être couverts par le média. Des exceptions existent, mais elles sont rares. Et elles doivent porter uniquement sur un enjeu journalistique, comme la liberté de la presse, à condition qu'elles ne comportent aucune revendication politique précise ni ne ciblent un acteur particulier comme un gouvernement, un parti ou une entreprise. C'est une ligne que nous nous imposons, non pour rester à distance des enjeux, mais pour pouvoir continuer à les couvrir sans que notre impartialité soit mise en doute. C'était « Une guerre à huis clos », mot de l'éditeur adjoint, un texte de François Cardinal, paru le 17 août 2025 dans La Presse.
Davantage d'inspections et d'amendes, mais des effets limités sur les logements insalubres. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir. Le nombre d'inspections de logements insalubres à Montréal et d'amendes données à des propriétaires fautifs a connu un bond notable en 2024, a constaté Le Devoir. Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour faire plier les propriétaires qui accumulent des amendes depuis des années sans pour autant changer leurs pratiques? Experts et organismes communautaires en doutent. Après avoir été freinés par la pandémie, le rythme des inspections de logements insalubres menées par le service de l'habitation de la Ville de Montréal, qui s'occupe des cas lourds en matière de propreté et d'entretien de logements dans la métropole, a repris en force depuis 2022. Un record de 3559 logements inspectés a ainsi été atteint en 2024 contre 2107 en 2023, montre une analyse des données ouvertes de la Ville effectuée par Le Devoir. En règle générale, les inspecteurs de la Ville se rendent dans des bâtiments insalubres après avoir été alertés par des locataires. Depuis l'an dernier, cependant, ceux-ci ont commencé à effectuer des visites préventives dans de nombreux bâtiments. L'idée, c'est qu'au lieu d'être réactif et d'attendre d'avoir des appels pour effectuer des inspections, on les fait en amont, explique en entrevue la conseillère associée notamment à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs, Despina Sourias. Cette dernière espère ainsi responsabiliser les propriétaires et les inciter à entretenir leurs immeubles avant que l'état de dégradation de ceux-ci soit avancé. En incluant les inspections réalisées localement par les 19 arrondissements de la métropole, leur nombre a atteint 9965 l'an dernier, soit tout près de la cible de 10 000 que s'était donnée la Ville, a indiqué cette dernière au Devoir. C'est à peine le prix d'un loyer. Le nombre de constats d'infraction remis par la Ville à des propriétaires fautifs est quant à lui passé de 90 en 2023 à 108 en 2024. Ce sont par ailleurs 112 amendes qui ont été distribuées depuis le début de l'année en cours, en date du 17 juin 2025, indique la Ville dans un courriel au Devoir. Les propriétaires qui reçoivent une amende en raison, notamment, de la présence de moisissures ou de vermine dans certains de leurs logements ont toutefois l'option de contester celle-ci devant la cour municipale. Cette dernière tient alors compte de la preuve présentée par les inspecteurs et des arguments du propriétaire avant de déterminer combien ce dernier devra débourser pour avoir maintenu un ou plusieurs de ses appartements insalubres. C'est ainsi qu'en 2024, les 60 condamnations prononcées en 2024, liées à des infractions constatées par la Ville entre 2022 et 2024, ont mené à l'imposition d'amendes totalisant 51 625 $, soit l'équivalent de 875 $ par propriétaire fautif. La somme la plus basse exigée à un propriétaire fautif a été de 250 $. Tandis que la plus élevée a atteint 2000 $. Pour les propriétaires qui font beaucoup d'argent, c'est à peine le prix d'un loyer, lance Michel Proux, chargé de projet responsable des dossiers en matière d'insalubrité au sein du comité logement à Hanseck-Cartierville. Ces condamnations sont d'ailleurs bien moins élevées que l'amende maximale de 6000 $ pour une personne physique et de 10000 $ pour une entreprise fautive que prévoit le règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements. Quand la pénalité, c'est juste des amendes, c'est illégal pour les gens pauvres, mais c'est légal pour les gens riches qui peuvent les payer, lance M. Proux, au sujet des propriétaires montréalais qui accumulent des constats d'infraction sans pour autant effectuer les travaux requis pour remettre en état leur logement. Les données ouvertes de la Ville permettent d'ailleurs de constater que, sur les 68 propriétaires montréalais ayant été condamnés dans des dossiers d'insalubrité depuis 2008, 5 d'entre eux ont reçu le tiers des amendes données. Ces 68 propriétaires ont reçu un total de 235 condamnations. Ces propriétaires sont particulièrement présents dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. D'autres avenues pour la ville. Trois avocats spécialisés en droit du logement rappellent pour leur part que d'autres leviers que la distribution d'amendes sont à la portée de la ville. Celle-ci peut notamment réaliser des travaux en lieu et place d'un propriétaire, puis lui envoyer la facture. Recevoir une facture pour des travaux menés à 150 000 $ c'est beaucoup plus dissuasif qu'une amende de 850 $ ou de quelques milliers de dollars, illustre l'avocat Daniel Crespo-Villarreal. Cet outil demeure toutefois très peu utilisé par la ville, alors même que cette dernière est aux prises avec un problème systémique, des propriétaires laissant volontairement leur logement se dégrader dans l'espoir de convaincre leurs locataires de partir, explique l'avocat Yorick Bouyela. La ville indique pour sa part être intervenue dans plus de 40 bâtiments entre 2018 et 2023 afin de réaliser elle-même des travaux urgents que des propriétaires tardaient à effectuer. Les sommes engagées, qui avoisinent les 190 000 $, ont ensuite été réclamées aux propriétaires fautifs. Un autre outil disponible pour la ville est l'inscription légale ou l'avis de détérioration. Le recours à cette inscription légale au registre foncier donne la possibilité à l'administration municipale de forcer le propriétaire d'un bâtiment insalubre à réaliser les travaux requis pour remettre celui-ci dans un état habitable. Si ces travaux ne sont pas faits, la ville se réserve le droit de prendre possession du bâtiment. À cet égard, la ville mentionne que 37 des 58 bâtiments ayant reçu un avis de détérioration au registre foncier du Québec depuis 2020 ont depuis bénéficié de travaux correctifs complets de la part de leurs propriétaires. Certains bâtiments ont toutefois reçu un avis de détérioration il y a maintenant plus d'une décennie et les travaux exigés n'ont toujours pas été achevés. C'était davantage d'inspections et d'amendes, mais des effets limités sur les logements insalubres. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir.